Point de vue avec Régie Bulle Immobilier.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé de belles fêtes et que vous tenez la forme en ce début d'année, près de 3 semaines après notre dernier podcast avec un personnage incontournable du hockey suisse, le directeur de la Ligue nationale, Denis Vaucher. Nous reprenons avec un autre personnage incontournable du hockey suisse, encore plus connu que Denis Vaucher, Paul-André Cadieux. Salut Paul-André.
Salut, bonne à tout le monde et à vous deux.
Merci, la forme, t'as pas trop abusé pendant ces fêtes?
Non, ma condition me permet pas d'abuser, là. Je dois faire extrêmement attention.
Alors on va évidemment parler de toi dans ce podcast de Gotteron comme toujours, mais d'abord je dois accueillir quelqu'un qui est également incontournable lorsqu'on parle du hockey sur glace à Fribourg, ma chère collègue Patricia Morand, avec nous donc pour cet épisode. Salut Pam.
Salut François, salut Paul-André et bonne année à tout le monde.
Et oui, bonne année, c'est le moment de souhaiter nos bons voeux à tous nos auditeurs, toujours fidèles. On espère qu'ils seront encore plus nombreux pour cette année 2024. Bon, je dois avouer, pour ce podcast, je me sens presque de trop, car Paul-André et Pam, vous n'avez quasiment plus de secrets l'un pour l'autre. Vous vous connaissez depuis quoi? 40 ans ou plus?
Pas tout à fait. Peut-être pas tout
peut-être
à fait.
Pas, non.
Non, intimement pas. Non, intimement, c'est un gros mot, mais je crois que j'ai commencé ma carrière à Berne. Pam n'était pas encore dans le cercle des journalistes qui venaient à Berne à l'époque.
Non, je commençais à marcher.
Ah, t'es si jeune que ça!
Pam, ton premier souvenir de Paul-André, justement? Oui, il remonte à quand? Alors, dans le début des années 90 ou un peu avant?
Non, un petit peu avant quand même, parce que avant de commencer comme journaliste sportif, j'étais supportrice de Gotteron. J'avais même une fois, pour une anecdote, j'avais reçu de l'argent pour aller m'acheter des chaussures et j'étais rentré à la maison avec du tissu pour que ma maman me couse un drapeau. Donc, c'est quand même quelque chose. Et puis, mon premier souvenir de Paul-André Cadieux, c'est quand il a commencé à Fribourg, j'avais le poster d'équipe qui était publiée dans La Liberté et que je voyais tous les matins parce qu'il était dans la porte de mon armoire où j'allais chercher mes chaussettes. Et voilà mon premier souvenir. Donc, c'était 1982.
J'étais pas mieux que les chaussettes.
Mais quand même, je regardais à gauche sur l'armoire le poster et puis je prenais mes chaussettes.
Bon, quand je disais que vous étiez assez intime dans l'armoire à chaussettes. Hein. Et puis toi, Paul-André, tu te souviens de la jeune journaliste Patricia Morand? Alors,
Ça, j'ai de la peine. Tout à coup, dans le brouhaha des fins de match, là, j'étais joueur, j'étais entraîneur, il y avait beaucoup de choses, donc c'était assez difficile.
Moi, je me souviens de la première, de ton retour à Fribourg en 89-90 avec Mike McNamara.
Ah, d'accord.
Oui, là, j'étais journaliste.
Oui, d'accord, oui.
Bon, on va évidemment se remémorer tous ces souvenirs, joyeux pour la plupart, un peu plus douloureux pour d'autres, mais on va d'abord prendre de tes nouvelles, Paul-André. Comment tu te sens alors dans ta situation difficile?
Disons,
la
température est difficile à gérer. On dit toujours que ça prend plus d'une année pour que les moignons se stabilisent. Et là, c'est difficile. Donc, en plus... On veut marcher, mais là, les conditions atmosphériques sont quand même difficiles.
On avait eu l'occasion de prendre de tes nouvelles aussi dans un article en septembre dernier. Donc, après tes deux opérations des jambes où tu as été amputé de la partie inférieure, tu disais j'ai dû réapprendre à vivre. C'est un combat presque quotidien pour toi.
Oui, c'est bon. Le plus gros problème, c'est la perte de mobilité, la perte d'indépendance de mobilité. Donc, je ne peux plus conduire. Pour le moment, je ne peux plus conduire. Est-ce que je vais reconduire? On laisse le temps de voir comment ce qui va se poser. Mais l'autre problème, c'est que mon épouse a des problèmes avec les yeux. Elle a dû remettre son permis de conduire. Donc, du jour au lendemain, on avait deux voitures. je m'excuse auprès des Verts, tout à coup, on se promène en autobus. On est bien situé à Villars-sur-Glâne où on demeure, donc il y a le bus qui passe devant chez nous. Donc c'est facile de venir en ville, mais il reste quand même que c'est pas facile, surtout si je dois faire des déplacements un peu plus longs, et surtout dans ma condition, c'est pas toujours facile de se rendre avec les transports publics, parce qu'il faut faire 2-3 transferts et c'est ça qui est le plus dur. Donc, monter, descendre. Donc, c'est une vie complètement différente. La seule chose après avoir passé 6 mois à Mérier en réhabilitation, c'est que je suis une personne quand même encore en bonne condition. J'essaie de me garder en condition le plus possible, et pour certaines personnes, perdre une jambe, avoir des problèmes, un AVC ou des choses comme ça, ça représente des gros handicaps. Donc, merci en haut pour l'aide qu'il peut me donner, et surtout la motivation d'affronter les problèmes.
Parce que tu as un rythme presque de sportif d'élite, avec des séances quasi quotidiennes de réhabilitation et de sport.
Bon, en fait,
ben,
bon, j'essaie de faire le plus possible, parce que le but de la réhabilitation, c'est d'essayer d'avoir une vie le plus normal possible, et c'est pour ça que j'aime bien faire les matchs de Gautheron. Ça me permet de revoir toutes les fans de Gautheron, ça me permet de voir certains amis, de me changer d'atmosphère, de me libérer la tête. Donc c'est ça qui est extrêmement important, et le but de la réhabilitation, c'est d'essayer de dire de laisser les cannes de côté, d'être capable de faire plus que 3-4 pas. Mais là, pour le moment, je dois dire, c'est extrêmement difficile avec la température. Les moignons n'arrêtent pas, et je fais... c'est peut-être ma carrière de joueur de hockey, où j'étais une personne très, très anxieuse, toujours prêt à vouloir aller sur la glace. Et ça me fait rire de voir tout à coup certains joueurs qui ne sont pas capables de rester assis lorsqu'ils sont de retour sur le banc, qui sont toujours debout. Et c'est un peu comme ça présentement. Je suis assis ici et tout à coup, j'ai des espaces musculaires comme disant « Oh, je veux me lever, je veux aller de l'avant. » Donc, c'est pour ça cause des problèmes, parce que les espaces musculaires font que les muscles sont toujours actifs. Et quand vous êtes pris dans un étau, là, c'est difficile.
On voit quand même que voilà, tu reprends gentiment certaines habitudes que tu avais, notamment on te recroise plus souvent à la patinoire, tu as repris ton job de consultant avec Radio Fribourg, ça te fait du bien, justement tu disais je revois des gens, je revois du hockey, finalement
bon,
c'est ta passion.
En fait, du hockey, je peux toujours en voir par la télévision, mais c'est pas la même chose, c'est de revoir. Samedi dernier, j'ai fait le match à Langnau, donc on a fait presque, on l'a mentionné à la radio, j'ai revu notre bon ami Doug Klaus, qui m'avait scié à 3 reprises parce qu'on n'avait pas fait champion avec Fribourg-Gautheron. C'était la cause de un, c'était la cause de l'autre, et à la fin, c'était la cause de un, c'était la cause de l'autre. C'est la cause de l'entraîneur aussi. Il n'a pas été capable de choisir ou de faire les bons choix. Bon, à la fin, il est venu à la fin du deuxième tiers, il dit « Ouais, Finlande va gagner 4-2. » J'ai dit « Non, Fribourg va gagner. » J'étais tout content que Fribourg, de peine de misère, a été capable de garder son 3-2 d'avance, et qu'on a été capable de signer la victoire pour Gautheron.
Oui, Klaus, par rapport à Gautheron, il se répète beaucoup, il me semble. Hein?
Oui, en fait, c'est toujours les mêmes choses. Bon, je l'admire parce que la façon dont il fait ses articles, c'est un érudit comme journaliste sportif, avec toute l'histoire, surtout de l'Emmental et des Bernois. Il connaît beaucoup de monde, il se rappelle de tout, et c'est pour ça que c'est bien lorsqu'on peut discuter avec lui. Ça nous fait revivre des bons moments, et on essaie de ne pas toucher certaines choses pour ne pas raviver certaines plaies.
Des bonnes choses, tu essayes aussi justement d'en transmettre aux auditeurs. Tu disais, ben voilà, ça me permet de revoir du monde, de vivre du hockey en live. Qu'est-ce que tu aimes dans ce rôle de consultant? Qu'est-ce que tu essayes de transmettre?
Bon, en fait, c'est transmettre, essayer de transmettre la vitesse, comment le hockey sur glace est un beau sport dynamique, explosif et tout ça. Et la seule chose, j'ai de la peine avec Marie à certains moments, c'est que à certains moments, les commentateurs veulent trop faire les arbitres. Laissez les arbitres arbitrer. De toute façon, ça s'égalise à la fin du match. Donc, il y a des mauvaises... C'est vrai qu'il y a certains matchs, c'est plus difficile. On a vu Christian samedi passé qui était pas trop content avec les arbitres. Bon, à la fin de l'année, il y a des décisions qui ont tourné pour nous, des décisions qui ont tourné pour l'autre équipe. Il y a peut-être des points, il faudrait faire une liste de tous les matchs et dire oui, ça nous a coûté un point, ça nous a donné un point. Mais dans la vie, les choses s'équivalent. On a des bonnes périodes, on a des périodes plus difficiles et il faut jouir du moment présent. Et lorsque c'est difficile, et penser au bon moment qu'on a eu ou au bon moment qu'on va avoir dans le futur.
Toi, t'es toujours resté calme avec les arbitres.
Ouais. Bon, je me rappelle. J'étais avec Fribourg où je m'étais énervé avec les arbitres. On était en play-off et pour ceux qui bon, il y en a, les spectateurs ne savent pas, mais à l'époque, tu sortais du couloir, donc c'est mal pensé. Les équipes doivent se croiser. À Berne, tu sors du banc des joueurs, donc le vestiaire de Berne, tu dois passer devant l'équipe qui sort, l'adverse qui sort. Puis juste à côté, tu as le vestiaire des arbitres qui est tout près. Et à la fin du match, j'étais tellement fâché avec les arbitres. J'étais rentré dans le vestiaire des arbitres et la personne de Berne qui devait assurer la sécurité des arbitres me connaissait parce que j'étais depuis longtemps à Berne. Donc, je suis membre honoraire à Berne. Donc, il a essayé de me retenir. Il aurait fallu une armée pour me retenir. Ça fait que je suis allé dire à l'arbitre ma façon de penser. Bon, j'essayais d'avoir de bons arguments pour le faire. Mais sur le banc, moins, je m'excuse, engueuler les arbitres, rester calme. Parce qu'avec, on dit toujours, c'est beaucoup mieux de rester calme. Et surtout, j'avais une approche un peu différente. À certains moments, j'appelais l'arbitre et dire, ouais, qu'est-ce qu'il veut dire, celui-là? Il t'engueule encore une fois. Regarde, moi, je reste calme. Donc, on essaie de gagner les faveurs de l'arbitre en essayant de rester calme et de pointer à l'arbitre, de dire, c'est l'autre qui t'emmerde, c'est pas moi qui t'emmerde. Moi, j'essaie de te défendre.
Ouais, la bonne tactique, on essaiera de la transmettre, enfin d'en parler à Marie Seriani et à Christian Dubé pour qu'ils soient moins virulents envers les arbitres. Bon, on est autour de cette table, évidemment, pour parler de hockey et de l'actualité de Fribourg-Gotteron pour commencer. Durant le championnat, on le sait, les coupures, ces pauses internationales ou la pause de Noël sont parfois difficiles à digérer. Ça s'est plutôt bien passé, voire très bien passé pour les Dragons qui ont repris avec 3 matchs et 3 victoires. Une victoire facile contre Kloten, solide contre Lausanne et sérieux à Langnau. On peut résumer comme ça la semaine des Dragons.
Oui, exactement. Donc, j'ai été très, très surpris. Je m'attendais à un match beaucoup plus difficile contre Kloten. Kloten avait eu quand même une bonne fin, avait fait des bons matchs sans toujours avoir les résultats positifs. Mais on s'aperçoit que l'entraîneur principal de Kloten était à la Coupe Spengler. Il y a plusieurs joueurs qui étaient à la Coupe Spengler. Donc, le rythme d'entraînement fait que qu'on manque un certain rythme. À l'époque, on voulait toujours faire des matchs durant la pause de Noël parce qu'on disait, oui, il faut rester en forme. Là, pour le moment, il y a très peu de joueurs de Fribourg qui sont partis. Ça a été relativement facile pour l'équipe de se garder en bonne forme. Mais il ne faut pas oublier que l'entraînement ne remplace pas les matchs.
Contre Lausanne aussi, 4-3, mais c'était convaincant hein, au non, niveau non, de la physionomie du match.
Le résultat ne donne pas la physionomie du match. Donc, encore une fois, Fribourg a bien maîtrisé les situations spéciales, où les, par spécial, il n'y a pas seulement les paraplés, les boxplés, mais les fins de tiers où tout à coup, il y a des changements de rythme, tout ça. Donc, présentement, c'est ça qui devient extrêmement important parce que il y a des matchs dans le match et c'est ces situations de flottement à certains moments qu'il faut être capable de bien maîtriser.
Est-ce que tu es surpris de la saison de Gauthieron?
Je suis surpris de la performance de certains joueurs comparativement à la saison dernière. Et il faut dire que le gros point présentement, Gauthieron a été... a pas eu de problème avec les blessés. Donc, il n'y a pas eu de gros problèmes de remplacement de blessés. Regardez de combien d'équipes en Ligue A ont dû aller chercher des étrangers en milieu parce qu'ils ont perdu un étranger pour blessure. Et c'est des blessures de longue durée, de 2 mois, 3 mois, jusqu'à la fin de la saison. Et jusqu'à présent, il faut toucher du bois, là. Pour Gauthieron, il n'y a pas eu de grosses blessures. Je ne veux pas, par rapport à Souterre, la blessure à Souterre ou la blessure à
Marchand.
Marchons présentement, mais on est capable de gérer présentement ces blessures-là. Donc, il ne faudrait pas que Sorensen, présentement, qui est le moteur de l'équipe, avec ses buts, ça donne... le moteur, en ce sens que le fait que Sorensen fait les buts et marque les buts au bon moment, ça a une dynamique fantastique sur l'équipe et on sent l'équipe qui, ensuite, est capable d'avancer. Si tu fais pas le but, t'es toujours après courir au score et ça devient difficile. Tandis que là, on a un marqueur patente. Et...
On peut expliquer la métamorphose de Sorensen, par exemple, parce que son jeu n'a rien à voir avec...
Bon, on peut expliquer sa performance l'année dernière à cause de sa blessure en début de saison. Et est-ce que le fait de jouer avec
Wallmark,
est-ce qu'on s'entend, on s'entend bien, ils s'entendent mieux, ils peuvent discuter, tout ça, et Motet après embarque dans l'élan. Donc, pour Motet, c'est bien de suivre l'élan et pas faire comme certains joueurs à certains moments ont essayé de faire avec les étrangers ou de dire, de vouloir dire. J'avais eu un joueur à un certain moment qui avait essayé de dire à Bykov comment jouer. De dire, oh,
sérieusement, t'as vu ça?
Donc, Slava, on entend. Slava, hein?
Non, c'est pour ça, oui, tu devrais faire ça. S'il vous plaît, va te placer devant le but, tu vas revoir le puck, puis organise-toi pour mettre le puck derrière le gardien de but.
Tu ne donneras pas le nom, parce que...
Non, pour ceux qui...
Bon, il y a prescription, là, non?
Pour ceux qui suivent Gauthieron depuis longtemps, peuvent aller voir qui a joué avec les deux. Donc, c'est pas un fribourgeois.
c'est facile.
Ça encore un peu. la série pourrait se poursuivre pour Gauthieron, parce qu'il y a vendredi le match contre Ambry. On voit qu'à la maison, ça fonctionne bien pour les Dragons. Peut-être que ça sera un peu plus serré ou compliqué à Berne. Samedi. Comment tu vois la suite? Les playoffs arrivent gentiment, là encore 16 matchs. Que doit faire Gauthieron pour monter en puissance ou justement gérer, stabiliser? Comment tu vois ces prochaines semaines?
Alors moi je pense qu'il faut d'abord assurer les points contre des équipes qui sont... Derrière,
il y en a beaucoup.
Bon, il y en a beaucoup. Non, mais je voulais dire peut-être un peu plus bas que le 8e rang ou autre chose.
Ce qu'ils ont fait à Langnau, par exemple.
Voilà. Et puis, utiliser les matchs contre des gros ou des équipes qui montent en puissance, je pense, à l'aller-retour contre Genève de la semaine d'après, essayer de faire des matchs références, quasi des matchs de play-off, pour vraiment s'affûter et préparer des choses pour les play-offs, justement. Moi, je ne suis pas entraîneur, mais... Paul-André,
t'en as eu des playoffs à préparer, ces matchs juste avant.
En fait, c'est sûr que la première chose, et ça avait été à l'époque une des... des points en début de saison, ne pas perdre contre des équipes qui sont réputées moins bonnes. Donc ça, c'est l'important, parce qu'à la fin, il va te manquer un, deux points que tu as égaré contre une équipe qui est derrière et qui on aurait dû bousculer. Donc de cette façon-là, comme tu le dis, Ambry n'est pas facile à manier, mais surtout Ambry paye un peu le prix de la Coupe Spengler. Ouais. L'euphorie de la saison dernière est complètement passée, donc Ambry est revenu sur terre cette année avec la Coupe Spengler ou après l'euphorie de l'année dernière. Donc, il ne faut pas perdre des points. Ensuite, le match samedi contre Berne, là, ça va être un peu différent. Berne s'est stabilisé, on voit la patte de l'entraîneur, on l'a vu la semaine dernière, le match la semaine dernière à la télévision, comment Berne est quand même une équipe qui est dure à manœuvrer, c'est plus aussi facile que contre sur un très très bon gardien de but, donc ça va être des matchs et c'est des matchs références et tu as ensuite mentionné Genève, donc ça va être Genève, est-ce qu'on va être capable de profiter la semaine après du retour de Genève de Finlande, est-ce qu'ils vont revenir euphoriques parce qu'ils vont s'être qualifiés pour la finale ou s'ils vont revenir avec piteux parce qu'ils ils auront perdu le match à Lukorama, donc là encore une fois il y a l'aspect psychologique qui va jouer et Gauthieron devra se servir de cet aspect-là pour essayer de monter en puissance. L'autre chose qu'il faut penser dans tout ça, est-ce que Gauthieron va assurer en allant chercher un étranger de plus pour les playoffs en cas de blessure? Donc, encore une fois, est-ce que tu vas choisir un avant, choisir un défenseur? Est-ce qu'on prend un gardien de but en toute réserve parce que si Béra est blessé, ça deviendrait extrêmement difficile. Et l'histoire de Gauthieron avec les playoffs revient toujours, on en a parlé indirectement en début. Le gardien de but a toujours représenté quelque chose de très, très important pour Gauthieron. Gauthieron a fait l'ascension parce qu'ils avaient un très, très bon gardien de but. Gauthieron a perdu des finales. Le gardien de but était... Le gardien de but avait bien joué. On disait toujours, cette année, il est là. Mais tout à coup, la pression des playoffs était différente. Bon, là, avec Béra, on a quand même quelqu'un de plus stable, qui est habitué à faire des gros matchs, donc qui a joué en équipe nationale, donc qui a eu une expérience aussi nord-américaine qui fait qu'il est stable, mais les problèmes physiques peuvent être là et est-ce qu'on prend des polices d'assurance indirectement?
T'as été chef technique, toi, déjà de plusieurs fois. Tu ferais quoi? Là, si tu étais à la place du directeur sportif de Gauthieron, tu irais chercher un gardien étranger surtout ou bien tu ferais quoi?
Bon, en fait, on a vu une année, je ne me rappelle pas quelle équipe était allée chercher un gardien de but pour nul. Donc, tu ne vas pas chercher un gardien de but pour remplacer ton gardien de but qui est super. Donc, tu vas le remplacer. Donc, tu dois trouver quelqu'un qui est prêt à venir comme gardien de but pour faire de la... pour s'entraîner. Et tout à coup, en cas d'urgence, tu es là en cas d'urgence. Donc, c'est une dépense qui peut être très, très importante. Tout dépend de la personne que tu vas aller chercher. Et pour quelqu'un qui veut venir en Suisse, il veut venir se présenter pour avoir un contrat l'année d'après. Donc, c'est pas pour chauffer le banc ou chauffer, regarder le match à partir des tribunes, puis faire des petits tours de car en Suisse. Je crois qu'il peut visiter la Suisse d'une autre manière. Donc, il y a ça. Par contre, il faudrait aller chercher, il y a même pour moi, un joueur d'avant qui pourrait peut-être à certains moments jouer derrière sur certaines situations. Bon, il faut trouver la perle rare, donc il y a certainement des joueurs autour. Tout à coup, on pense à Zou qui a été capable d'aller chercher quelqu'un dernièrement. Il y a encore des joueurs et il y a des joueurs qui pensent à l'année prochaine.
Mais en allant chercher un joueur, il y a forcément le risque un peu de déstabiliser un groupe, mais surtout un sextet d'étrangers qui fonctionne très bien et on ne voit pas trop qui est sorti.
Je suis d'accord avec toi. Mais il faudrait demander aux joueurs de dire, justement, les joueurs voient l'influence que les étrangers ont sur l'équipe. Et c'est encore plus probant maintenant à deux, lorsqu'il y avait seulement deux étrangers, les étrangers étaient importants. Mais là, à six étrangers, les étrangers sont encore plus importants parce qu'il y a des duos et les duos fonctionnent bien. Et maintenant, pour l'entraîneur, c'est de trouver le troisième qui va être capable de compléter. On a parlé de Slava et André tantôt, comment à l'époque Pascal Chalère avait été capable de bien les accompagner, de faire le travail pour lequel on l'avait donné. Donc, va te placer devant le but, Pascal, puis marque des buts. C'est pour ça. Mais à 6, on s'aperçoit que c'est encore plus important. On est allé chercher Diaz pour faire le powerplay. Là, Diaz, cette année, joue moins en powerplay parce qu'on a Borgman. Lentement, mais sûrement, Borgman prend plus d'influence sur le powerplay qu'il en avait au début de saison. Donc, c'est pour ça, c'est de voir. Le but affirmé de Gauthieron, c'est d'aller en play-off et de faire des bons play-off. C'est pas de dire, oui, on est en play-off, merci, on a réussi. Demandez aux fans au coin de la rue, ils veulent voir Gauthieron en finale. Et c'est pour ça qu'il faut prendre les dispositions. C'est pas qu'on n'a rien contre le groupe, mais il faut avoir des réserves. On prend le cas Berne prête un défenseur à Genève Servette. Ils ont dit, OK, vous pouvez l'avoir jusqu'à la fin du mois de janvier. Fin de janvier, on veut le revoir. On veut être sûr que s'il y a un problème avec un de nos défenseurs étrangers, on peut l'embarquer.
Tu parlais de finale pour les Dragons. On a une question de Kawa69. C'est cette année que Gauthieron fait champion ou bien?
Bon, Gauthieron pourra faire champion s'ils assurent, on a, disons, avoir des réserves. Lorsqu'on regarde, je ne veux pas dire l'alignement, le contingent de Gauthieron, comparativement à certaines équipes, on est juste. Donc, s'il y a une blessure à l'un ou à l'autre, ça devient extrêmement difficile. Et on sait, lorsqu'on joue à tous les deux jours, il y a des petits bobos qui deviennent des gros bobos, même si on a quand même un staff très, très bien au niveau médical, au niveau récupération. Les organismes sont mis à rude épreuve et c'est pour ça qu'il faut s'assurer d'avoir les réserves et des réserves qui sont capables d'avoir une influence sur le cours du jeu. Pas seulement quelqu'un qui va venir, oui, il est venu, il a joué 3 minutes, on est content, il a joué sur 3 minutes. Là, en play-off, tu joues 3 minutes, c'est 3 grosses minutes, on compte sur toi pour donner la chance à nos meilleurs joueurs de récupérer et aussi de déstabiliser l'adversaire. Bon, ils ont mis un junior, le junior tout à coup va faire un but. On regarde hier soir Genève, Chaton qui fait son premier but en Ligue nationale en Coupe d'Europe. Donc, il faut que des joueurs, nos jeunes joueurs, montent en puissance et soient capables de tirer leur épingle du jeu lorsqu'il va arriver les playoffs.
Bon, tu parles t'as touché du bois d'ailleurs avant pour dire il faut pas de blessés parce que le contingent est réduit. S'il n'y a pas de blessés, tu as l'impression que Gauthieron a les moyens de rivaliser avec Zurich, avec Zug, avec peut-être Berne, Genève. C'est
bon,
possible
en,
sur une
en,
série
en,
de
bon,
cette
en
match.
Bon, en fait, avec un bon Berra dans le but, tout est possible. Donc il faut dire que tout est possible. Et surtout, au fur et à mesure que la saison avance, j'ai l'impression que Gauthieron a gagné en maturité. On panique pas autant qu'on pouvait paniquer dans certaines circonstances auparavant. Et on est moins dépendant de dire si on fait un but tôt, ça donne beaucoup d'énergie à Gauthieron. On est capable de jouer sur la distance et de dire oui, on ne s'énerve pas, on va être capable d'aller chercher notre point, on va être capable d'aller chercher un but au bon moment. Donc on est en avance, en tout cas qu'on se fait passer par devant, on est capable de revenir au score pour égaliser et ensuite aller chercher la victoire. Donc là-dessus, quand même, on voit la patte de l'entraîneur qui a quand même une grande expérience, qui a joué des playoffs, qui a gagné des championnats, qui est capable. Le staff est quand même composé de personnes qui ont l'expérience de la glace et des compétitions importantes.
Avant de clore le chapitre Gauthieron, on va parler d'actualité toujours avec le Blick qui a annoncé hier l'arrivée de Jérémy Gerber, ancien joueur de Berne qui est à Lugano pour la saison prochaine pour remplacer notamment Andrei Bykov. Bon, Bernois de 23 ans, un joli gabarit, 1m86, 88 kilos. Comment tu vois cette arrivée? Comment tu juges ce transfert?
Bon, en fait, c'est pas l'arrivée de Gerber comme le remplacement de Bykov. Donc, il faut dire que l'histoire Bykov, le dossier Bykov.
On va y revenir. On a beaucoup de questions.
Jérémy Gerber, j'avais répondu. Franchement, Jérémy Gerber était un gros talent. Il a joué avec les juniors à Berne. Il avait fait quelques matchs, mais sa stature était imposante. Donc, et c'est pour ça que Domenicali est allé le chercher parce qu'il l'avait dans le viseur. C'est quand même une personne de dire oui, on a besoin, on a des petits joueurs, il faut aller chercher une bonne présence. Et tout montrait par rapport à ses statistiques de junior qu'il avait les possibilités d'être un bon joueur offensif. Bon, il n'a pas éclaté comme il s'attendait. Est-ce que c'est le... Il ne faut pas oublier à l'origine, non? Il est né dans l'Emmental. Donc, tu pars de l'Emmental pour aller au Tessin, c'est peut-être un gros changement. C'est un changement. Mais c'est comment tu es reçu de la part des autres équipes. Il ne faut pas oublier que l'entraîneur de Lugano est l'ancien entraîneur de Junior Elite. Donc, est-ce qu'il a, sans le vouloir, de dire hey, « le travail que j'ai fait avec les gars que je connais, je veux les tirer », il a donné peut-être un peu plus de priorité sans voir l'évolution de son équipe. Il a mis plus de priorité
sur les Tessinois.
Il faut que quand même qu'une personne qui arrive dans un nouveau milieu se sente à l'aise, se sente bien. Et plus vite que l'intégration est faite, il n'y a pas seulement l'intégration sur la glace, mais l'intégration autour de la glace, comment la personne va se sentir. On a eu souvent à Fribourg des personnes qui sont venues de l'extérieur, qui sont restées ou qui vont revenir parce qu'ils ont connu une âme sœur et tout à coup l'âme sœur a peut-être...
Tu penses à qui?
L'âme sœur a dit « Oui, ça serait bien de retourner. » Donc, c'est tous des petits détails qui font l'intégration devient extrêmement importante.
Mais tu as l'impression que c'est un bon transfert alors?
Bon,
le potentiel est là, en tout cas.
Le potentiel est là. Bon, est-ce qu'on on va le chercher? Si on lit entre les lignes, on a dit oui, on va essayer de l'accompagner mieux, de dire là. Ça m'a fait, j'avais fait rire, là, je reviens dans les vieux souvenirs. J'avais un joueur à Berne, on avait fait un transfert une année d'un jeune joueur. Puis pourtant, on avait mis énormément de travail dans le mouvement junior et surtout, on avait trois juniors près des l'éclore. Et comme souvent, lorsqu'on a des juniors du club, il y a les papas qui moussent l'histoire. Et tout à coup, j'avais pris part au transfert. Donc, c'était un jeune qui était parti de Langenthal pour venir à Berne. Puis, pour calmer les choses et prouver qu'on avait fait le bon choix, j'avais dit à ce jeune-là, j'ai dit, le premier entraînement que tu vas faire, tu ne vas pas la faire avec la première équipe, tu vas venir avec les juniors élites. Mais par contre, je veux te voir survoler l'entraînement. Tu sais, à la fin de l'entraînement, les papas qui sont derrière, là, qui se disent, ouais, qui ne sont pas contents parce qu'on est allé chercher quelqu'un de l'extérieur, te disent, ah ouais, c'est vrai, ils ont raison. Il est plus vite, il est plus fort, et techniquement, il lance plus fort. Tout ça, donc de dire, et le joueur ensuite est venu faire sa dernière année de hockey professionnel à Fribourg dans les années 8 ans. Mais c'est difficile d'être sûr. Est-ce que, on va dire à Gerber, le premier entraînement, tu viens avec les juniors, puis tu montes pour... Pourquoi tu fais la différence? Pourquoi qu'on est allé te chercher? Parce que tu es à un niveau supérieur. Ou de dire par rapport aux quatre joueurs qu'on a à l'extérieur dans les équipes de Ligue B, de dire oui, on fait un entraînement, on fait un match inter-équipe, puis on met tout le monde, on fait les blancs contre les noirs, puis ensuite tu te dépasses. Hein?
Effectivement, il a encore beaucoup à prouver, ce jeune homme. On verra l'année prochaine comment il s'intégrera à Gauthieron et ce qu'il pourra apporter. Quand je le liais à Andrei Bykov, c'est plutôt parce que j'imagine qu'il prendra une place d'abord en quatrième ligne, mais peut-être qu'il se développera différemment. Et puis que le sujet revient beaucoup. Je te disais, Paul-André, on a reçu quelques questions. Hilario Carillo qui demande, par exemple, ce que toi, tu penses du cas Andrei Bykov, et Bastif qui demande s'il ne méritait pas une année de plus, Andrei.
Bon, là, il faut faire attention avec les sentiments. Encore une fois, vous m'avez invité parce que j'ai des souvenirs, tout ça. Bon, pour les plus vieux, vous vous rappelez de l'époque Lucie et Gagnon, on a monté en Liga, tout ça, les inséparables, ils habitaient au Schoenberg. Il y a une foule de choses. Et on a été devant le même problème de dire qu'est-ce qu'on fait? Lucie et Gagnon, qu'est-ce qu'on fait, on les garde, on les garde pas, une année de plus, les deux, tout ça, et tout à coup, l'histoire a montré qu'on a décidé de se séparer de Lucier. Bon, on s'est séparé de Lucier parce qu'on avait dans la poche arrière, une façon de parler, là, de dire qu'on avait, déjà bien préparé notre coup, on était sûr que Richemond Gosselin n'était pas venir à Fribourg et prendre la place de Lucier. Donc, c'était quelqu'un... Jean était un peu plus vieux, Richemond commençait sa carrière, il était à Bienne, donc français, canadien-français, tout ça, de dire...
ça ne fera pas un trop gros choc.
Donc, on avait bien préparé tout ça, ça a calmé les choses. Jean est parti de Fribourg, est allé à Lausanne, a quand même bien fait à Lausanne, ils sont montés avec Lausanne, et Jean revient sur Fribourg, il est encore adulé. On a voulu de dire, ces deux personnes qui sont sur la glace, mais il y a ces deux personnes aussi avec tout le leadership qu'il y a à côté. Et si tout à coup, tu as deux personnes qui partent en même temps, tu dis, oh, le leadership, qui va prendre le leadership fribourgeois dans l'équipe quand, je n'étais pas dire cela, là-bas, André et Julien vont partir? Est-ce qu'on a quelqu'un qui va, un jeune fribourgeois qui va prendre, il reste pas beaucoup de fribourgeois à l'intérieur de l'équipe.
Quand même quelques-uns, non?
Oui, il y en a quelques-uns. Moté,
Bertie,
Yeke.
Bertie, d'accord, oui.
Il est fribourgeois maintenant.
Enfin, il est fribourgeois maintenant.
mais pour revenir à Andrei, tu disais qu'il ne faut pas prendre les sentiments. Mais alors, prenons pas les sentiments. Sportivement, tu l'aurais gardé déjà?
Sportivement, présentement, tout à coup, Andrei a une deuxième jeunesse sportive, là, il joue très bien. Moi, quand je regarde Andrei, c'est son patinage. Il reste toujours... J'avais fait un travail de diplôme à l'époque, j'avais utilisé les vidéos de dire par rapport à son patinage, son coup de patin, tout ça, c'est encore un gars, malgré ses 35 ans, il a 35 ans, qui est capable d'accélérer. Et le hockey hockey d'aujourd'hui, c'est un sport dynamique. On en a parlé tantôt. Il faut un, deux pas que tu sois capable de prendre ta vitesse pour te libérer du marquage de l'autre équipe. Donc, ces attributs-là, on ne peut pas les enlever. On ne peut pas les enlever. Et je crois qu'il y a des gènes aussi qui font que c'est pas demain que ça va tout à coup tomber en bas, à moins d'avoir un accident. Donc là-dessus, on ne pourra pas les enlever. Mais il faut penser plus que est-ce que là, le sursaut de production que André a, est-ce que c'est temporaire ou est-ce qu'il va être capable de l'amener avec lui l'année prochaine? Imaginez-vous que tout à coup, André a des difficultés au mois d'octobre l'année prochaine. Tout le monde va dire « Ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé André! J'aurais pas dû! » C'est toujours... Tu dois prendre une décision et tu as les plus d'un côté, les moins de l'autre côté. Et quand tu fais des plus et des moins, il n'y a pas de sentiment. Donc, il faut bien juger. Puis, il reste qui va prendre la place pour, et avec quel rôle. Est-ce que, on a parlé de Jérémy Gerber, il semblerait qu'il y aurait un deuxième aussi, parce que tout le focus est sur André. Il y a quand même Jorg qui doit être remplacé. Donc, qui va être cette deuxième personne qui va prendre la place de Jorg? Avec quel rôle? On a dit, ça a été dit, Gauthieron a dit oui, on va chercher Gerber dans un rôle bien précis. On est déjà prêt à le motiver. On le motive en ce sens. On le motive. On est des vendeurs. Hein. Lorsqu'on fait un transfert, une équipe est vendeur. Tu viens chez nous, on a une belle patinoire, on a une foule fantastique, tu vas voir. Tu viens à Fribourg, tu es les spectateurs, tout à coup, tu vas marquer deux buts, tout le monde va vouloir te payer une bière, un café. donc, tu vas rentrer dans le moule et tu vas voir que tu vas te faire partie d'une grande famille. C'est vrai. Tu viens à Fribourg, je me rappelle, à l'époque, quand j'étais arrivé à Fribourg, je passais presque pas à la buvette après, puis tout à coup, il y avait quelqu'un dans l'entourage de l'équipe qui m'avait dit, oui, tu sais, après, à Fribourg, après les matchs, c'est important de passer à la buvette, même si c'est la nouvelle patinoire. En bas, c'était plus... il y avait plusieurs buvettes parce que c'était dans le quartier de Lauge. Mais c'était... Il faut que tu fasses partie de la grande famille. Mais là, c'est différent avec les matchs qui se suivent le vendredi, samedi. Tu passes pas à la buvette, tu penses à aller récupérer,
ouais,
manger.
Tu passes à tous les restaurants de la nouvelle patinoire à 6 heures du matin, tu es toujours là.
Oui, d'accord. Mais quand même, et de dire l'intégration, tout ça devient extrêmement important. Donc, qui va prendre le rôle que cette personne va avoir? Et est-ce que, c'est sûr, là, pour les dirigeants de Gauthieron, c'est de dire on est allé chercher un gros talent, prêt à exploser, tout ça. Le deuxième, on a encore des points d'interrogation. Mais c'est une décision qui est extrêmement difficile à prendre. Et c'est sûr, l'influence des joueurs dans le vestiaire. Donc, les joueurs du cru, donc on pense aux défenseurs numéro 7. Par rapport à lui, est-ce qu'il va... Il monte en puissance, il devrait avoir une plus grande influence, et c'est un fribourgeois, donc il devrait être capable de prendre le rôle d'André dans le vestiaire au niveau fribourgeois. Donc, il est allé jouer à Ambry pour la Coupe Spengler, mais on était fiers de dire, oui, c'est un fribourgeois.
Mmh. Bon, il y a encore Schmidt, il y a encore Marchand.
Ouais, dans le vestiaire, ils peuvent prendre ce rôle. Après, dans le cœur des supporters fribourgeois, ce sera peut-être plus compliqué. Mais tu me connais, j'insiste toujours un peu, Paul-André. Tu n'as pas répondu à la question. T'aurais gardé André ou pas?
Non. Parce que je vais peut-être avoir des tomates, mais...
Non, j'ai... Des tomates ou des œufs pourris?
Non, parce que j'ai rien contre André. J'admire par rapport à qu'est-ce qu'il fait présentement, techniquement, tout ça. Mais il faut aller de l'avant. Donc, c'est dommage. Mais il faut qu'il y ait une transition. Il faut qu'il y ait un passage de témoins. Donc, André va sortir. Donc, il y a d'autres qui doivent rentrer. Mais pas de l'extérieur. C'est des Fribourgeois qui doivent encore plus s'affirmer pour prendre vis-à-vis de tout le monde le flambeau. Gotteron.
Bon, j'ai bien fait d'assister. On a une réponse claire. Merci, Paul-André.
Votre vision, notre expertise. Régibule Immobilier répond à toutes vos attentes. Gérance d'immeubles, administration de copropriété, courtage et expertise. Retrouvez toutes nos offres sur régibule.ch.
L'actu, c'est aussi ton fils, Yann. Tu as évoqué un peu Genève Servette en Ligue des Champions. Voilà, il y a eu le match aller cette semaine, mardi soir, hier soir. Voilà, on est mercredi matin quand on enregistre. Comment tu vis son épopée genevoise, comme ça, un peu à distance? Vous avez beaucoup de contacts. J'imagine que tu es fier quand même de ce qu'il a réalisé.
En fait, on est toujours fier de notre projeture. Donc, il a choisi très tôt de faire entraîneur. Donc, il a commencé au bas de l'échelle. Donc, il a commencé avec les U13 à Fribourg. Ensuite, il a fait les juniors élites. Il y a eu une progression quand même. Ensuite, il est allé avec les Rockets. Donc, son expérience aussi nord-américaine lui a énormément aidé parce qu'il a vécu différentes choses. Donc, il a été 3 ans dans une école privée qui mettait beaucoup d'emphase sur le hockey, là où il a reconnu quand même certains types de coaching. Ensuite, il a eu cette phase en Ligue majeure où il a été chanceux. Il a joué quand même avec des bons joueurs. Il a joué avec Pavel. Donc, ils ont quand même été des expériences et surtout des expériences enrichissantes parce que sur la longueur, donc de dire comment... Si tu veux gagner des championnats, qu'est-ce que ça prend? Donc, lorsqu'on pense à la Coupe Memorial au Canada, la suprématie du hockey junior au Canada, tu penses, il y a la Ligue, il y a la Ligue majeure du Québec, ensuite tu dois prendre une compétition contre des équipes moins fortes parce que tu dois jouer contre du junior B dans le Québec, ensuite tu fais l'Est du Canada, en fait, tu fais tout le Canada. Donc, il y a différentes étapes. Tu dois t'habituer à passer une première étape, une deuxième étape, une troisième étape. Et je fais du coq à l'âne, là. Je suis surpris de voir comment Théo Rochette joue à
Lausanne.
À Lausanne. On avait parlé, je connaissais le papa, pas pour l'avoir engueulé comme arbitre, ou peut-être une fois ou l'autre, mais parce qu'on a travaillé à certains... On n'a pas travaillé ensemble. Lorsque Théo était au mouvement junior à Neuchâtel
ouais.
Son papa venait patiner, m'a demandé, je veux venir patiner, je veux rester en forme, tout ça. Puis on a eu beaucoup d'échanges. Et lorsque Rochette là, m'avait demandé, j'ai dit, fais attention, tu sais, ça va être un overage, donc ça va être un gars de 21 ans qui va jouer contre des gars de 16 ans. Donc, tu sais, il y a une grosse disbalance. Mais encore une fois, et là, on revient pour parler, on va répondre à une question d'auparavant. Le roi. Je ne me rappelle pas de son nom.
Patrick
Roy, qui est entraîneur de Québec, voulait le garder. Donc, parce que c'est un joueur qui avait un impact sur le jeu, parce que dans le vestiaire, il avait un impact aussi, et il le voulait de dire, l'année prochaine, on veut faire champion. Je transpose ça différemment. L'année prochaine, Gotteron, si on ne fait pas champion cette année, et il faut que ça soit l'année prochaine. Et c'est pour ça qu'on a besoin des personnes dans le vestiaire qui vont être fort. Je ne dis pas qu'André n'est pas fort mentalement, mais il faut avoir un renouveau, de dire on a des personnes sur lesquelles on va être capable de passer à travers. On va chercher un gars un peu plus fort. On va peut-être jouer un peu plus d'une façon un peu plus robuste. Les petits gars de Fribourg, là, les petits romans de Fribourg, ils vont plus se faire bousculer. On veut mettre du poids. Et c'est des choses comme ça. Donc, Rochette arrive pour répondre, là, je fais beaucoup de détours. C'est tout à coup, on va chercher un gars parce qu'il a des qualités et est capable à différents niveaux, être capable de faire. Bon, là, il s'est fait emporter le dernier match, là, contre dimanche dernier sur le cross-check, mais c'est plus le moment. Moi, j'ai connu le Théo Rochette, il était tout petit, c'était tout frais, puis il m'aimait pas. Parce que je le mettais toujours à l'entraînement contre le meilleur joueur, un autre joueur de centre, un vis-à-vis qui était supérieur physiquement. Puis il n'aimait pas ça parce que tout à coup, il n'avait pas de marge de manœuvre. Puis je poussais l'autre à le faire comme ça, mais ça a peut-être aidé dans son développement. Donc, et c'est pour ça, des joueurs comme ça, avec différentes expériences, sont capables d'apporter ensuite plus dans le vestiaire.
Bon, ces expériences, ces parcours, on partait de Yann tout au début. Ton fils, on a une question de Gilles Gavillet qui demande justement si le fait de voir Yann remporter le titre de champion le printemps passé t'a aidé aussi un peu à surmonter tes opérations. Bravo, tu as un exemple. Il dit, voilà, cette relation que tu as avec Yann, parle-nous-en un petit peu.
Bon, en fait, tu sais, ça a été une période très, très spéciale. Donc là, c'était la période où je commençais avec les prothèses à marcher, donc à tous les jours, c'était de l'entraînement, mais complètement différent. J'ai pas voulu être un facteur perturbant. Donc, on se parlait, oui, bravo, tout ça, telle chose, peut-être telle chose qui m'a frappé. Et je dois avouer, la salle de télévision était juste à côté de ma chambre à Mérier. Et tout à coup, entre les tiers, je sortais toujours pour aller dans ma chambre et souvent, j'avais de la peine à voir le début du troisième tiers. J'attendais de laisser passer l'orage parce que si je regarde les matchs aujourd'hui, j'aime mieux suivre Gautheron que Genève parce que je m'énerve avec Genève. Donc, j'aime mieux suivre.
Ah bon?
Ça
n'a rien à voir avec Yann,
bien sûr. Non, ça n'a rien à voir avec Yann, mais j'aime mieux suivre Gautheron, surtout pour avoir senti mieux voir si je dois faire un match ensuite, de voir par rapport à qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, de voir. Et c'est pour ça qu'on avait des contacts, mais t'es fier, c'est ta progéniture, il a pris tes pas, mais il faut laisser vivre nos enfants avec les expériences, les soutenir, les aider, mais à certains moments, il faut qu'ils se cassent le nez eux-mêmes pour qu'ils soient capables de progresser.
Tu lui as donné des conseils? Pas du tout.
Je dois dire, ça a été une drôle de situation. Il sait qu'est-ce qu'il veut. Donc, il a vécu les périodes où, quand j'étais à Gautheron, le dimanche matin, à l'époque, on n'avait pas les systèmes qu'on avait. Donc, c'était le VHS, faire des vidéos chez moi. Donc, c'est complètement différent avec les programmes qu'on a maintenant. Mais il regardait puis de dire oui, telle chose, telle chose. Ça reste quand même d'avoir. Je vais être franc avec vous. Hier soir, je regardais le match à la télévision, puis j'ai dit oui, c'est pas le père.
il a un autre style.
Il est trop calme. Bon, est-ce qu'il bouillonne à l'intérieur puis il donne l'impression d'avoir tout sous contrôle? Quand les personnes me connaissent, comment je gesticulais.
Le micro, il a pris, donc.
C'est complètement différent. Bon. On va arrêter là.
On arrive justement à une période où on va parler de toi comme coach. J'ai vu dans un article que tu avais été traité de meneur d'esclaves par des joueurs de Gothéron qui ne te voulaient plus dans les années 80.
Donc, 85,
t'étais départ, comme ça dur.
À oui, cause oui, des oui, joueurs.
Bon, non, non, mais c'est vrai. C'est, tout à coup, bon, il ne faut pas. Moi, je suis arrivé à Gothéron en 82. Donc, Gothéron a eu une période fantastique auparavant. On a parlé de les deux gens auparavant, mais il faut pas oublier les deux gens. Il y avait Gaston. Et Gaston qui a amené l'équipe, il y avait Roblon dans les buts, donc il y avait tous les autres autour, Jean-Charles, il y a Kelman derrière, donc il y avait une foule de joueurs, Jacob, donc il y avait une foule, mais il y avait des personnages très très importants, Gaston, ensuite les deux gens, tout ça, qui étaient des personnes, des leaders qui tiraient l'équipe. J'avais fait le premier match que j'ai vécu. Moi, je suis arrivé à Fribourg. Il y a deux... Quand j'ai signé, à l'époque, c'est le président du club, Maître Cottier, qui était venu. On avait discuté. Puis, il y avait eu cette histoire Bandura. Puis j'ai dit, ouais, venir à Fribourg, Bandura, là, votre bande de casseurs, tout ça. Puis non, non, c'est pas ça, tout ça. Puis ensuite, lors du premier match de Gothéron, lorsque j'ai fait mon premier match comme entraîneur de Gothéron, tout à coup la porte du vestiaire est tout près, donc je suis là, ils annoncent oui la composition de l'entraîneur, et l'entraîneur Paul-André Cadieux, c'était un match, le premier match que j'ai coaché à Fribourg, c'était contre Cloton, puis tout à coup, et l'entraîneur Paul-André Cadieux, bouh, bouh, prendre la place de Gaston, ça n'a pas été facile. Bon, Gaston était bien, après avoir passé en France, était beaucoup latin. Moi, après huit ans à Berne, 2 ans à Davos, 2 ans encore, je suis suisse allemand, donc discipliné, c'est ça que je veux. Je prends pas mes gants pour le dire. Puis j'avais encore l'esprit de joueur-entraîneur, donc j'ai toujours dit, qu'est-ce que je demande, je suis capable de le faire. Même quand j'avais 40 ans, je me mesurais, j'avais du plaisir. Quand les Slava André sont arrivés, j'avais toujours plaisir. À certains moments, il manquait des joueurs, surtout le powerplay, il manquait des joueurs pour pas blesser des joueurs. Donc, j'avais toujours du plaisir de mesurer à Slava André comme entraîneur. Mais pour vous, gars, qu'est-ce que je demande, c'est pas l'impossible. Bon, et c'est vrai que j'étais très, très... J'étais dur, et la manière peut-être... comment dire... De trouver l'adjectif exact pour dire... la façon dont je disais. Donc, je disais les choses un peu carrées. Donc, mais pour certains...
Je suis seulement.
Je suis seulement. Bon, mais c'est le plus drôle, c'est qu'à un certain moment, un de ceux qui a réclamé le plus de ma manière était un Suisse allemand. Pourtant, un gars... c'était un Suisse allemand. Bon, combien de fois les joueurs sont passés chez le chef technique pour dire oui, que ça soit Béné, Sablonné ou ensuite Cigare Douce, de dire ouais, on s'est entraîné trop dur vendredi, ouais, on s'est entraîné trop dur, on va être fatigué demain. Si tu commences à penser comme ça, tu vas jamais faire de progrès et tu vas jamais aller de l'avant. Il faut quand même être prêt dans tes méthodes de dire oui, aller sur la qualité et moins sur la longueur. À certains moments, un entraîneur veut toujours faire trop et on doit aller sur la
qualité. Ça dessert l'équipe des fois, s'il y a trop.
J'ai lu quelque chose ce matin, la nouvelle formation des entraîneurs en Suisse, pour avoir le plus haut degré d'entraîneur suisse, maintenant tu dois faire un stage à l'étranger. Et l'entraîneur de junior de Berne a fait un stage à Boston. Et tout à coup, j'ai lu un article ce matin où il parle de son stage à Boston et de dire, oui, bon, la Ligue nationale, la NHL, t'as pas le droit d'entraîner plus de temps par par jour, tout ça, elle a dit, les entraînements, c'est 35 minutes. Il n'y a pas de correction. Puis il dit, pourquoi faire des corrections? Tu as les meilleurs joueurs au monde. Tu n'as pas le temps de dire, oui, tiens ta canne comme ça. Tu es capable de prendre ta passe comme ça. Tu n'as pas le temps de faire des corrections comme ça. Tout est bien structuré. Tu as l'entraîneur des défenseurs, tu as l'entraîneur de ci, tu as l'entraîneur de ça. C'est complètement différent. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, l'année dernière, j'étais allé voir, là, par hasard, j'ai dû conduire quelqu'un à Berne. Puis j'étais pas loin de la patinoire, j'ai une heure, donc je vais aller voir l'entraînement du SCB, donc tu rentres à l'Allemagne, tu peux regarder l'entraîneur, puis j'ai dit, la grande différence, c'était à la même heure qu'on faisait les entraînements dans mes dernières années à Berne, la grande différence, c'est qu'il y a un peu plus de joueurs, quelques joueurs de plus, mais il y a 5 entraîneurs. À l'époque, J'étais joueur-entraîneur, puis j'avais un assistant. Puis après ça, on n'avait pas. L'entraîneur de gardien de but est venu par après. Le deuxième entraîneur, l'entraîneur vidéo, ajouté à tout ça. Chef de matériel qui venait. Il n'y avait pas de masseur. Et là, tout à coup, tu regardes ça, tu te dis, c'est là, aujourd'hui et à l'époque, Cotteron se retrouve maintenant avec 2 assistants, l'entraîneur de gardien de but, le chef de matériel, le masseur. C'est tout complètement différent. Donc, on contrôle beaucoup plus de choses et c'est pour ça que les décisions sont prises d'une façon un peu plus collégiale. À la fin, il reste toujours la même chose. Le chef doit prendre la décision finale et s'il y a une décision et il y a quelque chose, c'est toi qui es payé. Bon, je coupe là. C'est toi qui es payé pour prendre la décision. Tu la prends, puis si ça ne fonctionne pas, bon, c'est toi qui payes les conséquences.
Bon, en 85, tu quittes Fribourg, tu retournes à Berne, mais uniquement comme joueur. C'est ouais. Juste. Berne, avec qui tu avais été 3 fois champion suisse.
Bon, on n'avait pas de play-off à Fribourg, à l'époque. Hein. Ouais. Ouais.
Mais là, 85, c'est le début des l'introduction des play-offs, justement. Berne, Langnau, Genève, et tu reviens en 1989 à Fribourg, un peu par la petite porte. Hein, t'es engagé comme assistant de Mike McNamara, responsable des juniors élites.
Oui, bon, en fait, puis on avait un petit cadre de junior élite, donc j'ai presque tout fait mes entraînements de junior élite avec l'équipement complet. Et c'est pour ça qu'à la fin de la saison, après le premier match de play-off contre Berne, justement, on a perdu 2 défenseurs. Christian Fuchsteter s'est blessé, un autre défenseur. Puis j'avais dit à Mike, dans le bus, en embarquant sur le bus, j'ai dit, s'il faut jouer, je vais jouer le match, le prochain match. Puis on était revenu à Fribourg, on avait gagné à Fribourg. Et c'est une série 2-3. On était retourné à Berne. Puis je me rappelle, durant le match, il y avait eu une double infériorité numérique contre Fribourg. Et Mike se retourne vers moi et dit, Paul, tu peux y aller. J'ai dit, Mike, tu me demandes là quelque chose, là, à ta minute, là. C'est un peu trop. Tu sais, je suis bien prêt à débrouiller. Mais là, c'est au-dessus de mes forces.
Bon, il faut aussi préciser aux auditeurs qui n'étaient pas forcément à l'époque qu'à ce moment-là, Mike savait qu'il n'allait pas aller au-delà de cette saison. On se retrouve là janvier-février 1990.
Ouais.
Peu de temps après, Gauthieron annonce qu'il t'engage comme entraîneur. Et quelques jours plus tard, Bikoff et Komutov, l'annonce du contrat de Bikoff et Komutov est faite.
C'est le contexte. Est-ce que le contrat de Bikoff-Komutov est fait avant?
Ils ont annoncé au mois de mars, mais toi, comme tu avais déjà été engagé, tu étais peut-être au courant.
En fait, j'étais au courant de la venue parce que tout à coup, Slava et André avaient été offerts par l'intermédiaire de Tino Kati, qui était toujours la personne qui accompagnait l'équipe qui venait visiter l'équipe nationale. Donc, et c'est par des contacts que Tino Kati, tout à coup, avait présenté à plusieurs équipes la possibilité de signer Bikoff et Komutov. Et personne n'y croyait. Et il fallait que ça soit... Jeannot Martinet, tout à coup, Yaka, et tout à coup, il s'est mis dedans, les voyages vite à Moscou, le bus, tout ça, les petits à côté, et tout à coup, Bykov et Komutov sont en Suisse.
Toi, tu as participé un peu à ces...
Non, moi, j'étais seulement... on m'a demandé qu'est-ce que je pensais, de dire, ouais, c'est facile.
Tu étais plutôt favorable.
C'est facile. Tu as des joueurs de ce calibre-là, deux joueurs qui sont ensemble, donc il fallait... c'était pas facile à l'époque de la Ligue nationale avec l'expansion, prenait toujours plus de joueurs. C'était l'exode des Russes en NHL commençait. Donc là, c'était toute une manière différente. Les Européens commençaient aussi à aller un peu plus en NHL. Donc là, ça a été différent sur ce plan-là. Mais il fallait... Il n'y a pas beaucoup de monde qui a cru, mais il fallait qu'il y ait quelqu'un qui y croit puis qui mette son énergie pour le faire.
Est-ce que ces années Bykov-Komutov, c'est parmi les plus belles de ta carrière quand même ou pas?
Bon, ça a été spécial. Donc, il fallait... il y avait le problème langue au départ. C'était pas facile. Quoique Fribourg a très bien géré ce dossier-là. Il faut dire que le président a très, très bien... On a parlé d'intégration auparavant. Donc, l'intégration a été faite parfaite. Bien à essayer à cette époque. Là, avec des Russes, je m'excuse là, d'utiliser des termes peut-être péjoratifs, mais avec des Russes, ils sont plantés complètement. Ils pensaient, on a des bons joueurs, ça va tout seul. Ça va pas tout seul. Il fallait bien les suivre, tout ça. La même expérience a été faite en Amérique du Nord. Donc, moi, à l'époque, Québec avait donc Slava et André étaient supposés d'aller à Québec. Pierre Pagé, qui était entraîneur à Québec, je retournais à Québec. J'avais un copain qui était assistant à Québec. Donc, tout à coup, Pierre me téléphone. Oui, qu'est-ce que tu penses, tout ça? Par rapport à l'intégration, ça a été un facteur. Et c'est pour ça, à l'époque, la Russie, les pays de l'Est, les pays de l'Ouest, il y avait une très, très grande différence. Et surtout, la Russie n'était pas la même chose que la Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie était très, très près de nous, tandis que Moscou était encore... très loin. Donc, c'est pour les joueurs qui sortaient de l'équipe nationale. On ne parlait pas de KHL à l'époque. C'était l'équipe nationale. C'était complètement différent.
Tu parles de la langue, de l'intégration, mais alors dans le jeu, c'est quand même facile d'avoir des joueurs comme ça?
Non, c'est facile. Bon, le plus gros problème, et c'est une question que j'ai toujours oublié de demander à Slava, surtout Slava, parce qu'on s'est retrouvé énormément de fois où on avait Slava encore, comme centre de la première ligne sur la glace. On avait l'allié gauche du troisième bloc, on avait l'ailier droit du deuxième bloc. Donc, Slava André, le fait qu'ils étaient supérieurs pouvaient donner. Et ça a été une question de dire, oui, Slava, tu vas jouer 30 minutes à la fin, tu vas jouer 30 minutes. Mais au lieu de jouer 30 minutes en 10 présences, tu vas jouer 30 minutes en 20 présences. Donc, réduire tes présences. Et c'est pour ça, lorsqu'on pense à nos finales contre Kloten, surtout contre Kloten, parce que l'entraîneur de Kloten, Everson, connaissait très, très bien, avait coaché l'équipe nationale, connaissait très bien les... Donc, il commençait avec Johansson contre Slava, puis ensuite, quand Johansson sortait, il mettait le fils Oxner, et le fils Oxner avait de dire, tu fais... Je vais employer une expression un peu spéciale, là. Tu fais le mouchoir, tu restes dans la poche arrière de Slava et tu le suis partout. Donc, il y avait un changement. Donc, tout à coup, ils essayaient de... de restreindre le rayon de Slava et André était un peu plus discipliné, suivait un peu plus les consignes, changeait. Donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvé souvent où on avait un décalage. On jouait à trois lignes à l'époque. Hein. On jouait à deux paires de défenseurs. Donc
Gauthieron doit gérer des joueurs comme Slava Bikov et Di Domenico qui ont de la peine à sortir. Ça existe tout le temps.
Voilà. Ça existe toujours. Et c'est là où on regarde Di Domenico cette année comparative au Di Domenico l'année dernière à Berne. Il y a deux choses. Hein. Dans ce cas-là, il y a deux choses. L'entraîneur de Fribourg a été joueur, a été un joueur à un très, très bon niveau et capable de dire par expérience. L'entraîneur de Berne l'année dernière était un jeune entraîneur, donc était un technicien. C'était un technicien. C'était pas un tacticien. C'était un technicien qui a essayé de devenir tactique. Et la grande différence dans l'entraîneur de Berne cette année, on voit un entraîneur qui est tactique, tout ça, qui sait prendre les joueurs, tout ça, que les joueurs font du progrès. Donc, il y a une grosse différence. Donc, et pour gérer des joueurs comme ça, il faut que tu sois capable d'avoir communiquer. On parle de communication aujourd'hui, que ce soit dans l'industrie, dans le sport, tout ça. Il ne faut pas avoir peur de communiquer et de dire oui, de parler à égal et les yeux dans les yeux. Donc, ça devient extrêmement important. Et c'est pour ça, donc, de dire oui, tu arrives à un joueur avec un statut très spécial parce qu'il est... Il y a une grosse aura, donc il faut être capable de se mettre au même niveau que lui, de dire parce que tu reconnais mes qualités, je suis capable, tu reconnais mes qualités, j'ai pas la même aura que toi, j'ai pas la même à l'époque je retournais au Canada l'été, je pouvais aller voir Montréal s'entraîner, c'était le temps des belles époques des Canadiens de Montréal, donc avec Scottie Bowman, le Scottie Bowman n'a jamais joué au hockey. T'sais, moi j'ai connu Scottie Bowman comme entraîneur du Canadien junior, puis moi j'étais à Oshawa, puis à l'époque, le Canadien junior était la seule équipe qui jouait dans la ligue junior majeure junior majeur de l'Ontario, parce qu'il n'y avait pas du junior majeur au Québec. Et c'était venu. Et c'est comme ça, on allait jouer, on venait toujours jouer le dimanche soir. On partait d'Oshawa le dimanche matin, on prenait le bus, la 401, puis on venait jusqu'à Montréal en bus, puis pour jouer les Canadiens. Puis bon, j'étais le seul Canadien français dans une équipe bien de l'Ontario, milieu de l'Ontario industriel, où et puis les gars disaient on s'en va jouer contre les frogs, on va jouer contre les grenouilles. Donc but there's only one good frog, il y a seulement une bonne grenouille, c'est Paul André. Et puis bon, j'avais un statut un peu spécial parce que j'allais à l'université à l'époque, donc cette année-là, la première année, je me suis jamais entraîné avec l'équipe. Je voyageais, j'allais pour les matchs, je prenais l'avion le vendredi après-midi pour Toronto, puis ensuite le bus arrêtait à l'aéroport me prendre, puis on allait à Kitchener, on allait le vendredi soir, habituellement c'était Niagara. Donc j'avais un statut un peu particulier, mais en plus d'être un frog, une grenouille, j'étais étudiant à l'université, j'ai vécu toutes sortes de choses un peu spéciales.
Bon, là, t'as fait un sacré saut de grenouille, parce qu'on va revenir dans les années 90. Sur ces finales, je voulais quand même t'entendre là-dessus. Forcément, elles ont marqué tous les Fribourgeois, ces finales perdues contre Berne et Kloten. Est-ce que maintenant, t'as encore, ou est-ce que t'as eu des regrets sur le déroulement, ou des choses tu dis, aïe, si c'était à refaire,
bon, dans l'article que tu as mentionné tantôt, qui est apparu dans le Blick, j'ai fait en pensant à mon bon ami Zhao, qui m'avait scié, comme j'ai dit, à propos du gardien de but. il nous manquait quand même une figure, un bon centre, un centre d'expérience. Et j'ai dit à ce moment-là, ce centre d'expérience, il est venu quand je suis parti. C'est Gilles Montandon. Avoir vu Gilles a contribué à Berne, au championnat à Berne, quand même, c'est un joueur d'expérience qui avait une présence physique, qui avait techniquement fort. Avoir eu un centre comme ça, ça aurait déchargé. On a parlé de Bikoff, Komutov, j'ai rien contre Mario Rotares, qui était notre deuxième centre, mais quand même, il nous manquait un joueur dans les deux sens de la patinoire. Donc, avoir eu un joueur comme ça, qui a une présence plus importante, ça aurait déchargé les autres et peut-être pour Slava de voir, oui, attends une minute, là, je prends le temps de glace de Gilles, ça aurait peut-être donné et ça aurait permis de dire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les Russes ont gagné énormément de championnats sur le fait qu'ils étaient supérieurs physiquement. Leur programme d'entraînement faisait que souvent, ils marquaient leur but entre la 50e et la 70e seconde de présence sur la glace. Donc, ils rendaient les joueurs à bout de souffle des autres équipes et pouvaient tourner l'équipe. Et c'est pour ça, dans cette idée-là, que Slava, André avaient été habitués à faire des présences un peu plus longues parce qu'ils étaient au-dessus de tout le monde, techniquement, mais physiquement aussi.
Tu parlais d'un gros centre que Kloten avait, hein, Roman Wege, donc.
Non, il faut pas. Eldebrink derrière était quand même un personnage qui pouvait diriger, donc aujourd'hui comme les défenseurs, donc ça va. Moi, je ne sais pas. Tu sais, tu as parlé de Gauthieron, tout ça. Si Gauthieron cherche un bon défenseur québécois, il faudrait peut-être garder à Lucorama.
Le il y défenseur. En a un qui t'a tapé dans l'œil.
Non, il m'a tapé dans l'œil. Puis, je dois dire, je ne connaissais pas ce joueur-là. J'ai dû aller sur Internet tout à coup voir son palmarès. C'est un gars. Et de voir, là, comment une carrière se dessine. Donc, c'est un gars qui est né à Montréal et qui a joué pour Magog. Donc, si quelqu'un connaît le Québec un petit peu, Magog est à l'extérieur de Montréal. C'est pas Magog, c'est pas Ville-Saint-Laurent ou quelque chose, c'est à l'extérieur. Mais Magog avait du Midget 3. Donc, le gars a joué Midget 3. Déjà, à ce moment-là, là, on parle des U17, des U13, des U15. Donc, c'est pour ça. Donc, le gars, déjà à ce niveau-là, ensuite est allé jouer junior, est allé jouer à Rouyn-Noranda. Puis, je me suis demandé, j'ai dit, oh, il a peut-être joué avec un gars, déjà Dupuis, que j'ai eu, qui avait joué à l'époque avec Crosby à Pittsburgh. Donc, mais quand même, c'est un joueur tout à coup qui est allé rejoindre un copain, tout à coup en Ligue nationale, il faisait pas. Puis, par contre, son style de jeu va très très bien en Europe et quand même a fait un gros match. Mais ça tombe dans l'œil des fois tout à coup. Pourquoi qu'on va chercher tel joueur?
Bon. Bon, Paul-André, tu nous auras fait voyager du Québec, Ottawa, en Russie, en passant par tous les clubs suisses que tu as connus. Lucorama maintenant. On pourrait discuter encore une heure et quart de plus, je pense, sans problème. Mais on va se limiter là. Peut-être qu'on te réinvitera pour approfondir
non,
encore d'autres.
En fait, c'est pas toujours facile de me suivre parce que je fais beaucoup de coq à l'âne.
On comprend. T'es une grenouille, alors c'est normal. On voit. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé tous ces moments avec nous, ces bons souvenirs. On a eu beaucoup de plaisir à t'avoir à notre micro. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024 ?
Bon. C'est facile, une meilleure année.
Une meilleure année, ouais.
Ouais, une meilleure année.
Ça ne sera pas difficile, par contre.
Oui, ça ne sera pas difficile.
Voilà, tu t'en es bien sorti en 2023 avec courage. En tout cas, on te souhaite tout de bon pour 2024. Merci de nous avoir écoutés. On a toujours plaisir à vous voir très nombreux sur nos statistiques après les épisodes. En tout cas, ça a l'air de vous plaire. Donc, Point de vue reviendra la semaine prochaine. On peut déjà vous dire que ce sera Jérémy Camerzin qui sera notre invité, ancien défenseur de Gauthieron. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions, qu'on se fait toujours un plaisir de relayer à nos invités. Merci beaucoup, bonne suite. Merci Pam, merci Paul-André.
Merci à tous, bye bye.
À bientôt, bye.
C'était Point de vue avec Régis Bulle Immobilier.
Vous venez d'écouter Point de vue, le podcast de La Liberté consacré à l'actualité de Fribourg-Gottéron. Si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode, abonnez-vous sur votre app de podcast préférée. Vous pouvez aussi nous retrouver sur laliberté.ch et l'application de La Liberté. À bientôt pour un nouvel épisode.